La Fédération des médecins spécialistes a dévoilé ce matin son plan pour réduire l'attente, améliorer l'accessibilité aux soins spécialisés tels que convenus dans la généreuse entente sur leur rémunération qui avait été conclue avec le gouvernement il y a quelques mois. 14 mesures qui vont permettre notamment un meilleur accès aux services d'imagerie médicale. Je joins la docteure Diane Francoeur qui est présidente de la Fédération des médecins spécialistes. Bonjour Madame Francoeur.
Bonjour, M. Lacroix.
Alors, qu'est-ce que c'est ce plan-là, au juste, et quels services vont être améliorés?
Ben, écoutez, aujourd'hui, c'était la présentation de ce qui a été annoncé lors de la signature de l'entente.
Oui.
Mais évidemment, on a fait beaucoup plus d'informations sur la rémunération que sur le volet accessibilité, mais qui était déjà prévu. Alors, le point qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est que lors des 4 dernières années, on a passé 3 ans et demi à chicaner, 6 mois à régler, et puis aujourd'hui, on voulait dire à la population, écoutez, depuis 6 mois, on peut travailler enfin avec le ministère de la Santé. Mmh. On s'est engagé dans 3 actions particulières avec 14 mesures qui sont dans notre plan d'action, et on voulait faire un état de situation pour dire à la population, ben écoutez, on a déjà livré plusieurs de ces mesures-là qui sont du concret, là. Comme on dit en bon français, les bottines suivent les babines.
Mais quels sont-ils ces services-là de plus là que vous auxquels on a droit depuis l'entente?
Bon, c'est sûr que la mesure la plus importante touche pas les gens de Montréal, elle touche plus les gens des régions éloignées. Vous savez, à chaque année, surtout Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, il y avait des fermetures de services parce qu'il n'y avait pas d'anesthésiste, qu'il n'y avait pas de chirurgien, etc. Dans l'entente, nous nous sommes engagés à couvrir les 6 spécialités de base. On s'est entendu avec le ministère, qu'est-ce qui était le plus urgent, quels étaient les centres à couvrir en premier, parce que évidemment, j'ai pas de baguette magique. Présentement, il manque 35 anesthésistes pour couvrir tout ce qu'il y a à couvrir à travers le Québec. Mais avec la collaboration du ministère, on a fait en sorte d'être capable de faire 11 jumelages. Ça veut dire 22 équipes, des centres plus grands où ils ont des équipes qui sont bien garnies, qui ont dit, ben nous, on va aller s'engager à couvrir une région sur un nombre X de semaines pendant l'année. On va les parrainer pour permettre aux gens sur place de souffler, puis de pouvoir prendre des vacances, puis faire du ressourcement, puis de ne pas couper des services à la population.
Mais Mme Francoeur, s'il y a un manque dans une région, c'est parce que les spécialistes, les anesthésistes, entre autres, ne veulent pas y aller, non?
Ben non, mais j'ai 35 de postes de vide, là.
C'est ce que je dis.
Pas y aller, là. Alors, ça veut dire que aussi, vous savez, la pratique en région pour un jeune qui commence, là, lorsqu'on s'en va s'installer dans une région où il n'y a pas beaucoup d'activités, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'ils viennent tout juste de finir leur formation. La médecine, là, faut en faire des cas, là, pour garder la main. Alors, c'est sûr que quand ça fait 20 ans qu'on est en pratique, là, intuber des patients obèses qui ont un polytrauma de 4 roues, là, on fait ça les doigts dans le nez, il n'y a pas de problème. Mais si on vient de graduer la veille, puis qu'on n'en a pas pendant un an et demi, on est moins confortable, et ce plan-là servait aussi à faire du jumelage. Les jeunes vont pouvoir sortir de leur région, donc ils vont avoir moins peur d'aller s'y installer. Il y a quand même, vous savez, 330 anesthésistes qui ont donné du temps.
Non, je comprends, mais diriez-vous qu'en région, on est moins bien servi en termes de qualité de soins?
Pas du tout. Vous me dites pourquoi les médecins veulent pas y aller. Ceux qui finissent, c'est quelque chose qui les inquiète. Puis c'est une réalité, là. Alors, tout ce qui demande des habiletés techniques, anesthésie, chirurgie, obstétrique, gynéco, quand tu fais pas beaucoup de cas, c'est sûr qu'on peut faire de la simulation pour garder la main, mais par rapport à une opération qui roule, il faut qu'ils aient la chance de voir des cas plus difficiles. Donc, le jumelage permet non seulement des équipes de Montréal d'aller là-bas, mais des jeunes qui s'installent et qui le désirent. Évidemment, s'il y a des gens qui sont en région depuis X années puis qui sont confortables, ils n'ont pas besoin de faire ça. Mais pour les jeunes, pour rassurer les jeunes, pour s'assurer qu'ils vont aller s'installer dans les régions, parce que vous savez, les régions, là, ils veulent des gens qui s'installent là-bas. Ils ne sont pas obligés de rester toute la vie, mais qui s'installent au moins pour une couple d'années pour qu'il y ait une continuité de soins. Donc, on a commencé en anesthésie. Là, on s'attaque en en septembre à la chirurgie générale. Après ça, ça va être médecine interne, psychiatrie, obstétrique gynéco, toutes les spécialités de base. C'est le ministère qui décide quelles sont les crises les plus grandes. Puis on s'assoit ensemble, on travaille, puis on décide quelle région on va couvrir. Okay. Alors ça, c'est un gros plus.
Bon.
Dans la région de Montréal, qui intéresse plus vos auditeurs, notre plus gros hit, c'est qu'on s'est vraiment battu pour garder les examens de scan et de résonance magnétique dans le réseau public. Alors, notre prétention était que si on gère mieux les rendez-vous et qu'on ouvre les heures en soirée, on n'aura pas besoin du privé, parce que des appareils de résonance magnétique, ça coûte cher. Est-ce qu'on a besoin d'en acheter d'autres dans le privé? Parce que ce serait du privé subventionné, comme vous savez.
Ouais.
Alors, donc, on a réussi à convaincre le ministère de faire tout un recensement de l'offre de service, encore une fois, d'éplucher les listes d'attente, parce que vous savez, un des problèmes, c'est que souvent, les listes ne sont pas nécessairement à jour. Les gens vont être sur 2, 3, 4 listes d'attente différentes.
Ben, il n'y a pas le choix, hein, parce qu'ils se disent, on va se mettre sur plusieurs listes. Comme ça, à un moment donné, il y a tout au moins quelqu'un qui va appeler.
Oui, mais c'est parce que quand on n'annule pas les rendez-vous, non, malheureusement, c'est la personne qui attend plus longtemps. Et ça, c'est une réalité. Dans la région de Québec, en imagerie, il y a jusqu'à 20% de ce qu'on appelle de no-show, de gens qui se présentent pas à leur rendez-vous. C'est que c'est ceux qui sont plus loin sur la liste qui attendent.
Ouais.
Alors, donc, on a réussi à ouvrir les heures à Sacré-Cœur, Fleury, Jean Talon, le CHUM, le CUSUM. Il y avait certains centres qui offraient déjà des services. Mais on a sensibilisé le ministère au fait qu'il fallait ouvrir davantage, de donner davantage de budget pour offrir des postes de technologues. Évidemment, l'été, c'est jamais une bonne période pour recruter. Les postes sont pas tous comblés, mais on a quand même avancé puis réussi à donner plus de rendez-vous. Mais on n'a pas juste fait ça. On s'est attaché avec l'INES. L'INES, c'est comme un peu notre institut de bonnes pratiques médicales qui compare la pratique du Québec avec celle des autres pays et des autres provinces. Et on s'est attaché avec l'INES pour développer un outil de pertinence de la prescription médicale. Ça veut dire, quand un médecin va prescrire un examen de résonance magnétique, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a besoin? Pour éviter les examens inutiles ou les examens qui pourraient être remplacés par d'autres choses qui sont moins coûteuses et moins invasives.
OK. Mais là, vous savez que les gens qui nous écoutent, là, il y en a une bonne partie qui se disent,
mais
c'est sûr, avec les salaires qu'on leur donne, ce sera le fun qu'ils donnent les services, hein?
Ben, nous, on rêve de ça, donner service.
Oui, oui, non, je comprends, mais c'est ça que les gens pensent.
Moi, je n'ai pas... Ben oui, je comprends. Je comprends tout ça. Écoutez, moi, je suis encore sur le terrain. Là. Je les ai tous entendus, ces commentaires-là.
Ben voilà.
Je suis pas inquiet, là. On le sait très bien. Et c'est pour ça que le plan, aujourd'hui, il focusait sur l'accès. On aurait pu s'éparpiller, là, à gogo, dans tous les problèmes du système de santé. Il y a un problème en médecine spécialisée, c'est rentrer dans le système. Les patients le disent, une fois qu'on est rentré, on a un service extraordinaire, tout le monde est content, tout va bien, la performance est là, il n'y a pas de problème, on n'est pas capable de rentrer. Mais c'est sûr que moi, mon problème comme présidente de fédération, je peux pas arriver, débarquer dans un établissement, puis dire « Hey, là, ça n'a pas de bon sens, comment vous donner les rendez-vous ici, faites ci, faites ça, faut que je sois invitée par le ministère à travailler avec eux. » Mais ça, on est capable, on a attaché ça dans notre entente de février, et maintenant, on est capable de travailler avec le ministère et collaborer pour focusser sur ces problèmes d'accessibilité-là. Et depuis 6 mois, non seulement on a fait des promesses et des engagements, mais on a livré.
Okay.
Alors, c'est ça qu'on voulait dire à la population.
Bon, Mme Francoeur, vous dites que vous entendez un paquet d'affaires, mais c'est vrai. Puis il y a plein de rumeurs qui courent concernant les dernières négociations avec le gouvernement. Monsieur Barrette avait été écarté. On avait confié le mandat de négocier à Roberto Iglesias, qui était le secrétaire général du gouvernement à ce moment-là. Et là, on entend que la fille de M. Iglesias, le docteur Marie-Hélène Iglesias, qui est gynécologue tout comme vous, travaille à votre clinique. Est-ce que c'est vrai, ça?
Ben oui, c'est pas une rumeur, mais c'est bien la dernière personne qui est au courant de ce qui était dans la négociation. Alors, c'est sûr que Roberto Iglesias est un médecin spécialiste en santé communautaire en fin de carrière. Il vient de prendre sa retraite. Le choix de qui devait mener les négociations, mais Monsieur Iglesias chapeautait. Le négociateur était Maurice Charlebois, qui n'est pas un médecin spécialiste.
Non, je comprends, mais c'est Monsieur Iglesias qui était le grand patron au-dessus de Monsieur Charlebois, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. C'était en fait, c'est M. Iglesias était le bras droit du premier ministre.
Puis vous ne voyez pas là-dedans une espèce de conflit d'intérêts, étant donné que sa fille gynécologue travaille dans votre clinique, donc proche de vous. Vous, vous négociez pour les médecins spécialistes. Lui-même est un spécialiste. Vous ne trouvez pas qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était un peu malsain dans cette négociation?
Il ne m'invite pas à souper chez eux le dimanche soir, là.
Ben, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que sa fille vous invite, je sais pas.
C'est sûr qu'on peut dire n'importe quoi. Alors, il y a des conflits d'intérêts perpétuels, mais effectivement, sa fille fait partie de l'équipe où je travaille. Mais je vous dirais que moi, je fais de la garde une fois par mois, les vendredis de nuit, le dimanche de jour. Ouais. Alors, mes contacts avec mon groupe sont quand même assez limités. Je ne suis pas à l'hôpital pendant la semaine. Je suis au bureau ici à préparer un plan d'action pour donner des soins aux patients québécois. Mais c'est sûr qu'on peut voir des conflits d'intérêts où on en veut. Ça, il n'y a pas de problème. Je pense que celle-là, elle est allée chercher loin. Là.
Ah oui, vous trouvez?
Écoutez, c'est parce que vous ne connaissez pas les individus en place. Vraiment pas, là. Je pense que...
Ben, c'est parce que
On peut trouver toutes sortes de travers... Vous savez, je le sais que l'entente a fait couler beaucoup de salive et d'encre. Il y a une étude qui est commencée, c'était prévu dans l'entente. Elle est commencée au début de l'été pour comparer le Canada et le Québec. On va avoir la réponse telle que prévue, fin 2019, ce qui est prévu dans l'entente. On va s'asseoir avec le gouvernement, puis on va décider qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est, avec des vrais chiffres qui incluent toutes les données. C'est ça qu'on s'est engagé, c'est ça qu'on va livrer, c'est ça qui est en train d'arriver. Et puis, à ce moment-là, on prendra les décisions. Est-ce qu'on a besoin de tout déchirer, tout ça, le 2 octobre? Ben, les Québécois à qui on a démontré aujourd'hui...
pourront le savoir.
Seulement, on s'était engagé à livrer des services au niveau de l'accessibilité. Ils sont là, les services. Là.
Merci, Mme Francoeur. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Au revoir.
Diane Francoeur est présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.